Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, à Beni Honor Kifour clôture annoncée ce mercredi du forum provincial consacré à la menace des rebelles ADF après 3 jours d'échanges entre autorités, société civile, FRDC et MONUSCO, une recommandation forte se dégage. Adopter une approche globale et inclusive pour mieux protéger les populations. 8 ans après la marche des catholiques du 25 février 2018 à Kinshasa, retour sur un mouvement qui avait fait coûter la vie à Rossi Mukendi Chimanga et fait plusieurs blessés. Témoignage d'un survivant de cette journée marquante de l'histoire politique récente du pays. À suivre sous peu. Kinshasa face au défi des déchets, des inondations et de la mobilité urbaine. Un projet pilote soutenu par l'ambassade du Royaume-Uni et mis en œuvre par les institutions congolaises, dont l'Agence nationale d'aménagement du territoire, ANAT, entend proposer des solutions concertées et reproductibles. Nous en parlons avec Karine Onyemba, directrice générale de l'ANAT. D'abord cette information, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu cet après-midi avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée en France. Selon le compte X de la présidence congolaise, cet échange a réaffirmé l'engagement de la France au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC dans un contexte sécuritaire préoccupant caractérisé par l'occupation militaire rwandaise de certaines localités de l'est de la RDC. Les discussions ont également fait le point sur la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Honneur qui vous, c'est en principe ce mercredi que se clôture le forum provincial consacré à la problématique des ADF à Beni, chef-lieu provisoire de la province. Ouvert lundi à l'initiative du gouverneur, le général Évariste Kakule-Somo, ce cadre de réflexion des 3 jours a réuni autorités civiles et militaires, la MONUSCO, la société civile, les femmes, les jeunes et des partenaires avec pour ambition de repenser la lutte contre ces groupes armés actifs au Nord Kivu et à Ituri. Depuis l'ouverture du forum lundi, une recommandation majeure se dégage, la nécessité d'une approche globale et inclusive. La société civile et les femmes ont insisté sur la prise en compte de la dimension communautaire en associant davantage les populations locales aux stratégies de neutralisation des ADF. De leur côté, les forces armées de la RDC et FRDC ont plaidé pour des actions multidimensionnelles, tandis que la force de la MONUSCO a mis en avant l'importance du partage d'informations par les civils pour renforcer l'efficacité des opérations. En marge justement de ces forums provinciaux de paix consacrés à la problématique des ADF à Beni, le secrétaire général académique de l'Université des Martyrs du Congo INUM RDC lance un appel à la solidarité. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, le professeur Louis Akilimali s'est dit optimiste quant à la restauration de la paix dans la province. Alors que le massacre perpétré par les rebelles ougandais ADF continue de frapper le Grand Nord, plusieurs entités du Sud restent, elles, sous occupation de la rébellion AFC M23. Cet expert en paix et en gestion des conflits estime que la mobilisation doit se concentrer non seulement sur la stabilisation de la province, mais aussi sur l'assistance aux survivants des violences. Ces propos sont recueillis ici par Bernard Denyangi.
Le massacre persistant des ADF, plusieurs orphelins, victimes prises en charge par l'Université des Martyrs du Congo depuis 2023. Depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles, les rêves sont brisés. Le Folarev pensait intervenir une équipe mixte diligentée en 2024 pour identifier de tous ces victimes au total des 156 victimes, dont 151 ici les ADF et 105 des M23 appellent à l'aide. Mais l'espoir est toujours grand. La société civile, les leaders communautaires, les autorités civiles et militaires, chacun a un rôle à jouer, transformant ces conflits en opportunités pour un avenir meilleur, pour une paix durable. Si nous travaillons ensemble, si nous sommes solidaires, nos enfants, notre espoir mérite un avenir.
Restons dans la province du Nord Kivu pour vous dire dans le même chapitre que les combats opposant les mouvements rebelles AFC M23 aux coalitions Wazalendo alliées à l'armée congolaise continuent de s'intensifier dans les territoires de Masisi et de Kalehe. Selon plusieurs sources locales, les affrontements de ce mercredi se concentrent dans le village de Kaseni, groupement Kibabi 1er, ainsi qu'à Mahanga, groupement Nyamaboko 1er. Les rebelles auraient lancé une contre-offensive après la reconquête de plusieurs positions par les forces gouvernementales. Les détails avec vous, Élisée Chikota.
Depuis tôt ce mercredi, de fortes détonations d'armes lourdes et légères sont signalées à Mahanga, dans la localité de Busiki. Mardi soir déjà, la coalition de Wazalendo alliés FARDC avait reconquis les villages de Kazinga et Ndete. Nos sources affirment que les miliciens tentent désormais de reprendre l'ensemble de cette entité afin de poursuivre leur progression vers Masisi Centre. Parallèlement, d'autres sources signalent une contre-attaque de l'AFC M23 contre les Wazalendo à Kasenye en groupement Kibabi 1er. L'objectif serait notamment de bloquer l'avancée des forces pro-gouvernementales en direction de la cité minière de Rubaya, qui demeure sous leur contrôle. Ces affrontements, qui marquent ce mercredi leur 10e jour consécutif, aggravent la crise humanitaire dans la région. La majorité des habitants de Kasinga, Ndete, Shungi, Kaniro et environ avaient déjà fui leur village. Depuis ce matin, ce sont les habitants et plusieurs éleveurs de Mahanga qui quittent à leur tour la zone par crainte de combat. À Rubaya, la situation reste extrêmement tendue depuis qu'une position rebelle a été ciblée mardi aux environs de 3h du matin par une frappe aérienne des FARDC. Là aussi, certains habitants ont fui, redoutant d'éventuelles représailles, indiquent nos sources.
25 février 2018, 25 février 2026, voilà 8 ans depuis que la marche des catholiques a été organisée ici à Kinshasa. Une marche ayant entraîné la mort d'un militant catholique, Rossi Mukendi Chimanga, tué au cours de ses mouvements pacifiques dans la commune de Lemba par les forces de l'ordre, selon le procès organisé en septembre 2018 à ce sujet. À la base, les organisateurs refusaient un troisième mandat pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila. D'autres victimes ont été blessées dans d'autres communes de la capitale. Cas de M. Béa Wabéa, catholique de son état, qui a été touché par balle et s'en est quand même bien sorti. Il nous relate les faits au micro de Nancy Atambo.
Le dimanche 25 février 2018, il y avait une marche de catholiques qui refusait le troisième mandat au président sortant Joseph Kabila. Lors de nos marches, il y a eu plusieurs mètres. Moi, j'ai eu une balle. On a tiré sur moi beau portant à l'église Saint-Éloi du Bon Marché. Parce qu'on avait marché ce jour-là, c'était parce que la population souffrait. Pour faire barre aux politiciens, afin qu'ils puissent quand même voir comment penser à la nation congolaise. Nous demandons que les autorités de la RDC, ce qui s'est passé le 25 février 2018, je ne veux pas que ça puisse encore se reproduire. C'était le problème de la Constitution. On ne veut pas qu'un Congolais puisse avoir 3 ou 4 mandats. C'est sûr, après deux mandats, c'est ça que la Constitution demande.
Pendant ces temps, les activités sont paralysées au sein du ressort de la Cour d'appel de l'Ituri. Depuis lundi, les avocats ont décidé de suspendre leurs prestations sur toute l'étendue de la province. À l'origine de ces mouvements, un incident survenu la semaine dernière à Mambasa où un avocat aurait été agressé par un magistrat en plein exercice de ses fonctions. Le Conseil de l'Ordre des avocats de l'Ituri dénonce un acte qui, selon lui, déshonore la profession et exige des sanctions à l'encontre de l'auteur présumé. Les premières conséquences de cette décision se font déjà sentir sur le terrain. Le point avec Jean-Claude Loki Dile depuis Bounia.
Tout serait parti d'une altercation jeudi dernier entre un magistrat et un avocat. Ce dernier sollicitait une audience dans un dossier impliquant son client. Après avoir entendu toute la journée sans être reçu, il aurait décidé de saisir le supérieur hiérarchique du magistrat. Informé, ce dernier aurait interpellé son collaborateur. Mécontent des remontrances reçues, le magistrat aurait alors agressé l'avocat, lui assémant des coups et déchirant sa toge. Pour les barreaux de l'Ituri, cet acte constitue une atteinte grave à la dignité et à l'honneur de la profession. Maître Joseph Keta, bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Ituri.
On estime que la dignité ou l'honneur du corps doit être préservé. Et donc, si on a pris cette décision, c'est pour que l'audience de flagrance puisse se tenir. Et dans ce cas-là, le ministère public doit saisir la juridiction concernés pour qu'il y ait cette audience de flagrance.
Sur les terrains, les conséquences de cette grève sont déjà visibles. À Arou Centre, par exemple, où se tiennent des audiences foraines de la Cour militaire de l'Ituri avec l'appui de la MONUSCO, les avocats ont déserté les salles d'audience, laissant leurs clients entre les mains des défenseurs judiciaires. En attendant une éventuelle réaction des autorités judiciaires, cette paralysie risque de pénaliser de nombreux justiciables à travers la province. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Direction Kassai. La direction générale des recettes du Kassai a scellé ce lundi tous les services de l'électricité du Congo. La DGRCAS accuse l'entreprise de n'avoir pas payé ses taxes et impôts liés à l'exploitation des ressources énergétiques pour plusieurs exercices. Explication avec André Katende Ngalamolume.
La Direction générale des recettes du Kassai a procédé à la mise sous scellé de toutes les installations de l'électricité du Congo pour non-paiement des taxes et impôts provinciaux. Selon la DGRCAS, l'EDC cumule une dette fiscale importante couvrant la période de 2021 à 2025. D'après la directrice générale de la régie financière, Brigitte Isaka, les taxes concernées portent notamment sur les droits d'implantation des cabines électriques des moyens et basse tension, ainsi que sur la redevance liée à l'exploitation des ressources énergétiques dans la province. Les montants principaux de la dette s'élèvent à 36 milliards 700 millions de francs congolais. À ces chiffres s'ajoutent des pénalités de 15 milliards 728 millions, portant la dette totale à 52 milliards 428 millions de francs congolais. La DGRCAS invite l'EDC à s'acquitter rapidement de ses obligations fiscales. À défaut, elle annonce qu'il ne procède dure des recouvrements forcés sera engagée conformément à la loi. Kananga, André Katende Nalamulume, Radio Okapi.
Non loin de là, le gouvernement provincial du Kassai Oriental a annoncé la résiliation du contrat liant l'office des routes à l'entreprise GMC Johnny Matala Company, chargée de la réhabilitation de plusieurs axes routiers dans la province. La décision a été rendue publique ce mardi à Mbujimayi lors du compte rendu du Conseil des ministres provinciaux lu par Pascal Ernest Ilunga, porte-parole du gouvernement provincial. Esther Dalafina.
Selon les informations fournies par l'Office des routes, le contrat concerne notamment le corridor Katende-Lac-Moukamba sur la RN1 où GMC a été mandaté pour exécuter les travaux d'élargissement de la route ainsi que de sa modernisation. L'information autour de la résiliation du contrat a été annoncée par Maître Pascal Ernest Ilunga dans le compte rendu du Conseil des ministres provinciaux tenu ce mardi à Mbujimayi.
Le Conseil a été également tenu informé par le ministre de la rupture du contrat de la GMC avec l'Office des routes pour insuffisance des résultats.
Toutefois, le directeur provincial de l'Office des routes, Marcus Okita, a indiqué que trois autres partenaires du gouvernement avaient déjà mené des études sur la réhabilitation de cette route, ouvrant la voie à de nouvelles alternatives.
Et un financement de partenaires, le gouvernement a jugé bon qu'on puisse accorder cette partie-là aux partenaires parce qu'ils avaient déjà mené les études sur ces tronçons-là. Et on va voir comment délocaliser GMC pour lui accorder un autre tronçon.
Signalons que cette rupture intervient dans un contexte de critiques récurrentes. Les habitants du territoire de Kabakamanga ont à plusieurs reprises dénoncé la qualité des travaux exécutés par GMC. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Vous le savez, ce 25 février marque le 24e anniversaire de la Radio Okapi, la radio de la paix. Pour les jeunes de Beni, Radio Okapi constitue un outil indispensable pour leurs revendications et plaidoyer auprès des décideurs et dirigeants du pays. Ils saluent au passage la contribution inestimable des Radio Okapi dans la construction de la paix et de la cohésion sociale en RDC. L'un d'eux, Dadi Azor, s'exprime au micro de Marc et Marofimbo.
Aujourd'hui, il faut le dire, déjà la radio Okapi, elle est toujours aux côtés des jeunes et son angle d'information revient à rappeler à la paix, à la cohésion sociale et tous les messages de paix dont les jeunes veulent intensifier à des niveaux plus élevés, ils utilisent toujours la radio Okapi. Pour nous, c'est la radio de proximité parce qu'au fait, mais la radio Okapi nous permet de faire arriver nos voix nos plaidoyers, nos recommandations, tout ce qui va avec la jeunesse. C'est à travers la radio Okapi que nous arrivons à atteindre les grands décideurs. Voyez-vous, par exemple, s'il faut atteindre, par exemple, le président de la République à travers un message de la jeunesse, de Beni, c'est difficile qu'une radio de Beni fasse arriver ces messages au niveau des instances nationales. Mais à travers la radio Okapi, ça fait foi et nous savons effectivement que si vous nous tendez les micros, nous avons la possibilité de parler aux grands décideurs de façon très indirecte. Et aussi, nous avons la possibilité, en tout cas, de les atteindre. D'autant plus qu'eux aussi font foi à la radio, qui est une radio pour moi, elle reste incontournable au niveau national. Et tout le monde qui écoute, ça prête crédibilité, ça prête foi. Et elle est toujours à côté de nous pour relayer nos messages, pour relayer nos revendications, pour relayer même nos propositions aux côtés des autorités.
Actualité internationale.
Le pape Léon XIV se rendra en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale dès la mi-avril. Première étape de ce voyage qui durera 10 jours, les villes d'Alger et Annaba du 13 au 15 avril. Ce déplacement constituera la première visite d'un pape en Algérie, pays où l'islam est religion d'État.
L'invité.
Kinshasa, aujourd'hui mégapole de plus de 15 millions d'habitants, fait face à d'importants défis liés aux déchets, aux inondations et à la mobilité. Pour y répondre, l'ambassade du Royaume-Uni, à travers le programme dénommé JESIP, appuie un projet pilote mené en collaboration avec les institutions congolaises, dont l'Agence nationale d'aménagement du territoire, ANAD, la cellule de développement urbain de Kinshasa et la cellule infrastructure. Une initiative qui mise sur une approche concertée et reproductible à l'échelle nationale. Pour en parler, nous recevons Madame Karine Onyemba, directrice générale de l'ANAD. Elle s'entretient avec Jocelyne Moussaoponde.
Madame Onyemba, dans le concret, comment va se matérialiser ce projet?
C'est d'abord une collaboration franche entre les équipes. Du point de vue institutionnel, les équipes ANAT, CDUK et même de la cellule infrastructure travaillent ensemble. Ce sont trois institutions de la RDC qui opèrent dans la ville de Kinshasa, mais qui ont aussi, sauf pour la CDUK, la cellule infra et pour l'ANAT, ont aussi l'opportunité de reproduire ces projets à l'intérieur du pays, dans les autres provinces. Donc c'est une capitalisation. Un accord sur la méthodologie, l'approche, où on teste ensemble. On se met d'accord au départ du projet sur les objectifs, les moyens qu'on va mettre, tant les moyens humains que les techniques, parce que ça fait toute une différence dans la mise en œuvre de projet. Et là, on part ensemble et nous validons à travers des ateliers à mi-parcours qu'est-ce qui se passe, quels sont les points d'attention et nous évoluons ensemble. Ça, c'est vraiment le bénéfice énorme de ce projet. Dans la définition aussi des objectifs, dans les choix de sites expérimentaux, on l'a fait ensemble, du point de vue institutionnel. Et pour la RDC, c'est une première que les institutions étatiques travaillent ensemble. Et c'est la garantie dans la capitalisation, aussi dans la reproduction, un savoir-faire commun et validé par tous.
Est-ce qu'on peut déjà se faire une idée sur les actions que l'Okinois ou les Congolais peut voir dans les prochains jours sur terrain?
Alors, du point de vue capitalisation, c'est déjà une étude qui est faite de manière participative et inclusive, parce que d'une part, il y a l'expertise, mais il y a aussi les populations qui participent. Donc, en participant, les populations ont une vision claire de d'où est-ce qu'on part et vers où on est en train d'aller. Au moment final, c'est-à-dire lorsqu'on aura les rapports d'études, ça sera un document concerté, partagé, qui a déjà bénéficié de l'appui des populations qui sont les premiers bénéficiaires. Et donc, ça, c'est déjà un acquis. Mais aussi, dans la mise en œuvre, on expérimente les différents outils, les différentes méthodologies proposées dans un secteur clé, qui est souvent un secteur dans les trois cas. Hein. On a pris la commune de Kalamu pour la question des gestion de déchets, mais aussi des drainages. Il y a des carrefours qui sont identifiés. Ces carrefours-là servent de pilote, mais aussi on pourrait les dupliquer éventuellement dans d'autres carrefours qui ont des situations similaires.
Vous parlez d'une première phase qui s'achève. Est-ce qu'on peut avoir l'évaluation que vous faites de cette première phase?
Alors, l'évaluation est positive. C'est celle qui a donné lieu à la deuxième phase. Le projet était défini, mais il fallait identifier un secteur pilote, des tronçons pilotes. et identifier des actions à mener. Ces premières analyses ont porté leurs fruits. C'est ce qui a ouvert la voie à la deuxième phase, qui consiste à exécuter justement les recommandations pour arriver, nous l'espérons, à une troisième phase vraiment d'investissement, de réalisation.
Les appuis à la ville ou à la gestion des déchets, il y en a eu, avec l'Union européenne notamment. Quelle est la particularité de ce programme par rapport à tout ce qu'on a déjà vu avec d'autres partenaires qui sont intervenus dans le même secteur?
Vous avez épinglé le projet Union européenne sur la gestion des déchets. L'approche, elle est un peu différente. L'Union européenne a travaillé essentiellement avec la ville de Kinshasa et essentiellement avec une institution publique, avec un rôle très important autour de l'institution ville de Kinshasa. Sur le projet JCIP, au-delà des institutions, il y a un gros volet avec la population, avec le souci de sensibiliser et de faire comprendre à la population le rôle qu'il a à jouer pour améliorer la gestion des déchets. L'autre point important, c'est aussi la vision d'une économie circulaire autour de la gestion des déchets. Alors pour nous, la NAT, qui sommes en train de préparer la grande politique nationale des gestion des déchets, c'est une expérience que nous allons capitaliser parce que nous analysons les différents rôles des acteurs. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement apporter comme plus que cette question de gestion des déchets ne repose pas uniquement sur les institutions publiques, mais que la population participe comme vraiment partie prenante et à côté de ça, qu'il y ait un développement économique avec une économie circulaire. Donc ça ouvre la voie à des partenariats PPP, à des possibilités de renvoyer certaines responsabilités aux communes, mais aussi aux partenaires privés qui vont faire partie de cette économie circulaire et soulager, alléger un peu la question de la responsabilité provinciale.
Madame Onyemba, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, notre invité s'entretenait avec Jocelyne Moussa Opondé. Ainsi s'achève ce journal mis en ordre par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa, coordonné par Élisée Chikota et supervisé par Alain Rongmouchinge. À la présentation, grâce à Mzati Massanzi. Merci de nous avoir suivis.